Bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de présenter ce soir Cédric Michon pour son dernier ouvrage sur François Ier. Alors, Cédric Michon, vous le connaissez, il est professeur à l'Université de Rennes. Il dirige les presses universitaires de Rennes. Il est membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Et c'est aujourd'hui, au fil des années, c'est devenu le meilleur spécialiste de François Ier. D'où cette biographie qui vient de sortir aux éditions Belin, car malgré ses tâches administratives, il a réussi la performance d'écrire ce livre. Il va donc nous présenter cet ouvrage ce soir, et dans le jeu des questions et des réponses que nous allons échanger, je dirais que ma tâche est assez relativement facilitée dans la mesure où les titres de chapitres sont à la fois des titres assez attractifs, des titres un peu choc, mais aussi des titres qui remettent en cause un certain nombre d'idées reçues. Alors, justement, le premier chapitre, c'est l'énergie du roi. Et il y a littéralement trois valeurs qui apparaissent, l'énergie, le faste et la simplicité. Alors, est-ce que ce sont ces trois termes qui définissent le mieux François Ier, l'énergie, le faste, la simplicité ?
Alors, je vais répondre à la question. D'abord, je vais te remercier pour la présentation. Même si ce qui est bien, c'est que maintenant, je ne peux plus que décevoir avec ce que tu as dit de moi. Lorsque j'ai commencé à rédiger ce livre, je me suis dit qu'il était intéressant de commencer par une présentation un peu de l'homme que fut François Ier, sachant que j'aurais tout le temps après dans le livre d'aborder un certain nombre de thématiques, un certain nombre d'enjeux du règne. Et François Ier est un souverain qui a une personnalité assez originale. Alors, sur l'énergie, c'est quelque chose qu'il partage avec beaucoup de rois de France. On a pas mal de témoignages de Louis XIV, par exemple, à Versailles, où il est coincé par une pluie battante et où il est comme un fauve en cage qui a envie de sortir pour aller chasser. Et c'est justement d'ailleurs dans la chasse que François Ier a l'énergie la plus extraordinaire. On le sait parce qu'on dispose de très nombreux témoignages de courtisans et de favoris du roi qui, dans des lettres, racontent qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont couru un cerf pendant 36 heures sans s'arrêter et ils ont essayé de négocier auprès du roi pour s'interrompre. Et le roi a dit non, pas question, tant qu'on n'aura pas retrouvé le cerf, on ne s'arrêtera pas. Donc l'énergie, on la voit du début de l'enfance de François Ier jusqu'à sa mort. Et je dirais même que cette énergie, c'est quelque chose qui a pu lui coûter cher. On a un épisode qui n'est pas très bien connu, qui se passe à Romorantin au début de l'année 1521, au moment de la fête des rois. Il était de tradition que la cour se divise en deux camps pour essayer de prendre une place. Donc là, en l'occurrence, le roi affronte le camp de son favori, d'un de ses favoris, François de Bourbon-Vendôme, le comte de Saint-Paul, et ce dernier se réfugie dans sa maison, à Romorantin. Et François Ier, à la tête de ses amis, essaye d'entrer de force dans la maison. Et il essaye de défoncer la porte, en fait. C'est un jeu amical. Il essaie de défoncer la porte. Il n'y arrive pas, et notamment parce qu'un serviteur du comte de Saint-Paul trouve judicieux de balancer par la fenêtre une bûche enflammée qui lui entaille fortement le crâne et la joue. Et c'est à partir de cette époque-là, d'ailleurs, que François Ier s'est mis à porter la barbe pour masquer en fait la cicatrice qu'il avait. Et l'épisode nous est connu par les ambassadeurs italiens qui sont à Romorantin. Et François Ier, pour se faire soigner, a dû être rasé. Comme il ne voulait pas être le seul rasé de la cour, il a fait raser tous ses gentilshommes. Et les ambassadeurs italiens se tairaient chez eux parce qu'ils savaient que s'ils sortaient, ils seraient attrapés de force par les archers et rasés. Ce qui m'avait fait proposer comme titre à l'éditeur, François Ier, l'homme qui ne voulait pas être chauve tout seul, et qui n'a pas été accepté. Ça avait un côté roman norvégien ou suédois qui n'était pas le propos. Donc cette énergie, il l'aura jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, et avec une on va dire, une maturité qui ne progressera pas. Enfin, c'est, à mon avis, d'ailleurs, un intemporel. C'est-à-dire que si vous prenez un groupe de garçons de 10 ans et que vous prenez les mêmes 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, je pense qu'en termes de maturité, on n'a pas gagné beaucoup. François Ier, c'est un peu ça. C'est un peu ça, avec des jeux un peu violents au cours de son règne. Le faste, maintenant. Le faste, on peut être assez rapide dessus. Il suffit de penser à Chambord, il suffit de penser à Fontainebleau, à un certain nombre d'autres châteaux, et puis à toutes les fêtes de cour. Mais plus original est la simplicité. Et cette simplicité de François Ier, c'est là encore, il y a un élément, on va dire, structurel de la royauté française et un élément propre quand même à François Ier. L'élément structurel, c'est que le roi de France vit au milieu de ses sujets. Il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'il y ait une sorte de remise aux normes internationales de la cour de France avec le décorum en fait de la cour de Versailles. Mais même ce décorum, il implique que Louis XIV vive au milieu de sa noblesse. Et François Ier, donc 150 ans avant, est véritablement au milieu de ses courtisans d'une manière assez surprenante qui choque d'ailleurs les ambassadeurs étrangers. Par exemple, l'ambassadeur d'Angleterre au début de la décennie 1520 est choqué par deux choses. La première, c'est que lorsque le roi mange à sa table, ses courtisans sont vautrés sur le dossier de son fauteuil, ce qui serait inenvisageable à la cour d'Henri VIII, ou par le fait que le chancelier délivre un discours à la réception d'ambassadeurs sans retirer son bonnet. Là encore, ça ne serait pas envisageable. Donc cette simplicité, on l'a dans sa manière d'être, on l'a également dans son rapport avec d'autres courtisans ou des ambassadeurs étrangers. J'en prendrai deux exemples. À la fin de son règne, en 1544, François Ier reçoit Cuthbertson Stowell, qui est ambassadeur d'Henri VIII. Cuthbertson Stowell est totalement oublié aujourd'hui. Hein, c'est un évêque de Durham, dans le nord de l'Angleterre, et c'est un proche d'Erasme. Vous voyez, c'est un humanisme vraiment de gros calibre. Et François Ier, évidemment, est ravi d'avoir quelqu'un qui puisse apprécier la richesse de sa bibliothèque. Sauf que Cuthbertson Stowell a près de 80 ans, il est fatigué, et c'est Tunstall qui raconte dans une lettre à Henri VIII que, comme il est fatigué, François Ier va lui chercher une chaise pour qu'il puisse s'asseoir et qu'il puisse continuer à lui parler de sa bibliothèque. On a un autre ambassadeur d'Angleterre, Henry Wallop, auquel François Ier fait visiter la galerie de François Ier à Fontainebleau. Et comme Wallop est un peu petit, il ne parvient pas à bien voir les détails. Et donc, François Ier le prend sous les aisselles et le monte pour lui montrer les détails. Et le dernier exemple, ça, c'est les hasards, de la recherche qui sont agréables, c'est que je parlais de cette énergie, de ce face et cette simplicité à une collègue portugaise et qui me dit, mais c'est amusant ce que vous me racontez, parce que en fait, il y a un ambassadeur portugais qui raconte ça. C'est-à-dire, on est au début de la décennie 1540, il y a un projet de mariage entre la fille du roi du Portugal et le fils de François Ier. Et puis, pour une question d'alliance, le roi du Portugal décide de marier sa fille au futur Philippe II d'Espagne. Donc lorsque François Ier apprend ça, il est furieux, il est vexé, ça fait des mois qu'ils sont en train de négocier, et il apprend que le roi du Portugal, non seulement a changé d'avis, mais en plus marie sa fille au pire ennemi de François Ier. Et donc Francisco de Noronha, qui est l'ambassadeur du Portugal, raconte ça, à son roi, que lorsque François Ier découvre, il est furieux, et il dit que François Ier marche vers lui, et qu'il a cru qu'il allait lui en mettre une. Et puis Noronha parvient à convaincre François Ier qu'il était au courant de rien. Que voilà, lui, avec la lenteur des informations qui circulent, il était au courant de rien, donc il continuait à négocier un mariage qui était déjà oublié. Et il raconte qu'il finit par convaincre François Ier qu'il a à sa colère qui tombe tout de suite et qui, là encore, le prend dans ses bras et le jette en l'air en lui disant « Alors, sans rancune !» Et il dit « Ainsi est le roi de France, tout d'énergie, de faste et de simplicité. » Et donc, j'étais content de partager l'analyse avec un contemporain ambassadeur du Portugal.
Belle découverte. Alors, dans les première page, il y a un personnage qui apparaît comme particulièrement important. C'est la mère de François Ier, c'est Louise de Savoie. Avec Louise de Savoie, on est dans cette tradition des grandes régentes. Et pourtant, Louise de Savoie, elle est beaucoup moins connue que Catherine de Médicis, elle est beaucoup moins connue qu'Anne d'Autriche, elle est un petit peu oubliée. Pourquoi et a-t-elle été aussi importante auprès du roi?
Alors, pourquoi est-elle oubliée? Je n'en sais rien. A-t-elle été importante? Oui, indiscutablement, c'est un personnage vraiment passionnant, fascinant, d'intelligence, de sens politique, qui a également une espèce de conviction chevillée au corps que son fils deviendra roi de France, alors que, je rappelle, la généalogie des rois de France est un peu compliquée. On va dire, remontons à Louis XI. Lorsque Louis XI meurt, il a un fils, Charles, qui devient roi sous le nom de Charles VIII. Et si Charles VIII a un fils, c'est son fils qui lui succédera. Il se trouve que Charles VIII n'a pas de fils. Donc, c'est un cousin de Charles VIII, selon les règles de succession du trône qui monte sur le trône, Louis d'Orléans, sous le nom de Louis XII. Si Louis XII a un fils, c'est lui qui lui aurait succédé. Mais Louis XII va mourir sans fils. Et donc, c'est François d'Angoulême qui devient François Ier, roi de France. Et donc, à la naissance de François d'Angoulême, il est effectivement assez proche de la succession au trône, il est numéro 3, mais il y a un numéro 3 qui a chance de jamais de passer numéro 1, puisque ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux rois qui se succèdent et qu'aucun de ces deux rois n'ait un fils qui lui survive. Donc, malgré cette probabilité limitée qu'il devienne roi de France, Louise de Savoie est convaincue que son César, comme elle l'appelle dans son journal, deviendra un jour roi de France. Et tu me dis, pourquoi est-elle oubliée? J'en sais rien. Mais ce que je ne sais pas non plus, c'est pourquoi aucun romancier n'a n'a prêté à Louise de Savoie l'empoisonnement des nouveau-nés mâles qui sont nés de Charles VIII et Louis XII. Parce qu'il y en a eu quelques-uns qui sont soit morts-nés, soit morts très rapidement après leur naissance. Et on a un mobile de crime là assez évident. Et donc je suis surpris qu'un Dumas, par exemple, n'ait pas pensé à ça. Mais c'est une accusation qui ne circule nulle part. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'elle a assassiné les nouveau-nés. Hein. Je suis juste en train de dire que ça m'a toujours surpris que ce n'est pas une hypothèse qui a été formulée par des gens avides de nous expliquer que ce qui s'est passé ne s'est pas passé ou que voilà, y a du sang et de l'empoisonnement là derrière. Donc Louise de Savoie, je pourrais vous en parler deux heures et je vais essayer d'être bref pour dire deux, trois choses qui sont intéressantes sur elle. La première, je dirais, si vous voulez, peut-être ça sera la seule même pour ne pas être trop long, c'est un épisode. Cet épisode, c'est un épisode qui se passe au moment, en 1525, alors que le roi vient de perdre la bataille de Pavie et qu'il est prisonnier en Espagne. Donc, lorsque le pouvoir royal tangue, vous imaginez que tous les ennemis de ce pouvoir redressent la tête. Et les deux principaux ennemis du pouvoir royal à cette époque-là, presque jusqu'à la fin de la monarchie, c'est l'aristocratie, la grande noblesse, qui considère qu'elle ne joue pas un rôle suffisamment important dans les affaires de l'État. Et c'est les cours souveraines, les parlements, qui considèrent, là aussi, qu'on ne leur accorde pas un pouvoir suffisant. Et donc, on a, au moment de l'emprisonnement de François Ier en Espagne, une espèce de mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire une association entre les parlementaires de Paris, les membres du Parlement de Paris, et puis le prince du sang, le plus puissant du royaume, qui est Charles de Bourbon. Et à ce moment-là, Louise de Savoie est à Lyon, elle est régente du royaume, et Charles de Bourbon est poussé par les membres du Parlement de Paris pour aller réclamer la régence à Louise de Savoie. Donc la coalition des ennemis de Louise de Savoie est à ce moment extrêmement, extrêmement forte. Et en fait, elle va gérer les choses d'une manière à la fois très ferme et très habile, c'est-à-dire que lorsque Sa chance, c'est que Charles de Bourbon, il n'a pas plus envie que ça, en fait, de devenir régent. C'est, voilà, il n'a pas la volonté de s'imposer. Mais donc, Louise de Savoie va recevoir Charles de Bourbon. Il va lui dire, vous voulez ma place? Écoutez, bah, c'est très bien. Puisque vous êtes là, je reconstitue le dialogue, hein, qui ne s'est pas passé sans doute comme ça, mais puisque vous êtes là, vous êtes actuellement lieutenant général des armées du roi, en l'absence du roi prisonnier en Espagne. Eh bien, je me demandais justement si j'allais pas nommé à votre place Odette Foy, donc vicomte de Lautrec, qui ferait un très bon lieutenant général. C'est-à-dire qu'en gros, elle réagit par la menace, par une autre menace. Et Charles de Bourbon n'a pas la volonté suffisamment forte, donc en gros, il ne va pas franchir la ligne jaune de la révolte. C'est-à-dire qu'en gros, il met le pied dans l'eau, il dit c'est froid, il reprend son pied et puis il retourne à Paris. Et pendant les 15 premières années du règne, 1515 à 1530, Louise de Savoie va être ce personnage politique incontournable, mais vraiment incontournable, extrêmement subtil, qui sait menacer quand il le faut, mais qui n'a pas le goût du sang non plus, hein, et qui va aider le roi à tel point que il est assez surprenant, lorsque vous lisez les rapports des ambassadeurs, de voir que très souvent, ils n'écrivent pas au roi, mais ils écrivent au roi et à madame. Comme si on avait une espèce de diarchie à la tête de l'État. Et on a également une miniature sur un manuscrit commandé par François Ier qui représente, assis sur le même trône, François Ier et Louise de Savoie. Quelque chose d'extrêmement surprenant. Donc, pour faire bref, on ne peut surestimer l'importance de Louise de Savoie, qui est vraiment un personnage absolument passionnant et extrêmement important des 15 premières années du règne.
D'accord. Alors, quand on pense à François Ier, on pense tous naturellement à Marignan, à 1515. On a tous appris ça il y a fort longtemps. Et quand on ouvre ton livre, on lit « François Ier est-il le vainqueur de Marignan ?» Alors, c'est de la provocation
Non, c'est une question. Alors, c'est une question un peu provocatrice, mais c'est une question dont l'objectif est de soulever la complexité, en fait, de la situation. C'est-à-dire que Marignan n'est pas ce qu'on croit. D'abord, qu'est-ce que c'est que Marignan ? Marignan, c'est une petite ville à une dizaine de kilomètres au sud de Milan. Et qu'est-ce que c'est que Marignan ? C'est une bataille. Alors, c'est une bataille qui oppose en Italie des Suisses à des lansquenets allemands, au service d'une armée française, à laquelle est associée une armée vénitienne, composée largement de mercenaires albanais. D'accord ? Donc c'est l'Europe avant l'Europe, mais c'est l'Europe de la guerre. Alors, qu'est-ce que font tous ces gens-là ? Les Suisses sont dans une démarche de consolidation de la Confédération helvétique et donc ils cherchent à s'assurer des États vassaux, si vous voulez, tout autour de la Confédération. Et il se trouve qu'il y a un maillon faible dans le nord de l'Italie et ce maillon faible, c'est le duché de Milan, pour une question de succession, là encore, d'un duc qui meurt sans successeur évident. Donc, les Suisses attaquent pas véritablement, mais entrent dans le duché de Milan, et ils entrent dans le duché de Milan pour essayer de vassaliser cet état ducal. Il faut savoir qu'en 1515, ça fait 200 ans que les piquiers suisses sont invaincus sur les champs de bataille européens. Donc, lorsque vous avez des milliers de piquiers suisses qui arrivent quelque part, en gros, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Alors, que vient faire François Ier dans l'histoire ? François Ier, par sa grand-mère, a une légitimité à réclamer l'héritage du duché de Milan. Donc ça, c'est, je dirais, selon les lois de succession de l'époque, selon nos critères d'aujourd'hui, c'est une blague. Mais en fait, non, ça n'est pas une blague. Effectivement, sa grand-mère est une Visconti, donc il pourrait avoir des droits sur le duché de Milan. Donc, il y va. Il va avec son armée à Milan pour s'emparer du duché. Et c'est là qu'intervient une première chose qui va un peu compliquer, si vous voulez, l'image qu'on peut avoir du roi et de ce qu'est la bataille de Marignan. Cet élément, c'est que François Ier sait très bien que les Suisses sont invaincus depuis 200 ans sur les champs de bataille européens. Donc, il propose aux Suisses une sorte de rançon d'1 million de livres tournois pour qu'ils rentrent chez eux avec armes et bagages. C'est-à-dire que François Ier sait qu'une bataille, on n'est pas sûr de la gagner, et donc il préfère payer pour ne pas risquer de tout perdre. Et les Suisses acceptent ce million de livres tournois. Pour vous donner une idée, c'est à peu près un quart du budget de l'État à l'époque. Donc c'est vraiment une somme absolument considérable. Les Suisses acceptent, mais il se trouve que la Confédération des cantons suisses est déjà à l'époque, comme aujourd'hui, divisée entre les cantons alémaniques et les cantons francophones. Et les cantons francophones sont assez favorables à une alliance avec le roi de France, alors que les cantons alémaniques y sont très opposés. Donc alors que la négociation a été couronnée de succès, que l'argent, et d'ailleurs commence à être versé aux Suisses, il y a une espèce de sécession des cantons alémaniques qui décide d'attaquer le roi de France contre l'accord qui vient d'être passé. Donc en gros, le roi se couche le soir à mi-septembre en pensant qu'il vient d'éviter une guerre et qu'il s'est acheté le duché de Milan, et il est réveillé le matin par les guetteurs français qui signalent un énorme nuage de fumée qui vient de Milan. Et face à ça, pour le coup, il va être à la hauteur, et son armée va être à la hauteur, c'est que malgré cette attaque imprévue des Suisses, l'armée va tenir bon. Elle va tenir bon, mais on ne peut pas véritablement parler d'une victoire éclatante. C'est-à-dire que la bataille est très indécise, elle est interrompue quelques heures pendant la nuit, et puis au matin, l'armée de secours vénitienne, composée donc de ces mercenaires albanais, arrive. Et les Suisses comprennent à ce moment-là qu'ils ne pourront pas remporter la victoire. Et donc ils abandonnent le champ de bataille, mais ils l'abandonnent en bon ordre, c'est-à-dire qu'ils l'abandonnent, ils reculent et ils se retirent vers le nord du duché de Milan. Donc s'il fallait répondre par oui ou non, c'est-à-dire François Ier est-il le vainqueur de Marignan ? La réponse est bon, oui, si vous voulez, mais c'est un oui, mais. C'est-à-dire que la comparaison qui me viendrait, ce serait une comparaison tennistique, c'est-à-dire vous imaginez un match en 5-7, 6-7 dans le premier set, 7-6 dans le deuxième, 6-7 dans le troisième, 7-6 dans le quatrième, on est à 6-6 dans le dernier, et puis il y en a un des deux qui abandonne. Donc, l'autre aura gagné. C'est indiscutable, mais ce n'est pas la victoire éclatante qu'on a tendance à évoquer. Donc ça n'enlève pas la qualité de sang-froid de François Ier, ça n'enlève pas sa tête politique, on va dire presque machiavélique, qui est prêt à payer pour éviter l'affrontement, et ça n'enlève pas non plus ses qualités chevaleresques, ses qualités de guerrier, qui est capable de motiver ses troupes pour faire face à une attaque imprévue. Mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on nous dit habituellement. D'où la question.
D'accord. Alors, 10 ans après Marignan, malheureusement, il y a Pavie. Pavie, là, c'est un désastre militaire, mais est-ce que là encore on peut nuancer ? Est-ce que c'est moins désastreux qu'on l'a écrit ?
Non. Non. Là, c'est vraiment désastreux. Et je dirais que c'est non seulement désastreux, mais c'est en plus une faute qu'on peut vraiment reprocher à François Ier. C'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine de la faute. Je dirais que on a une erreur stratégique de base qui est couronnée in fine par une faute tactique. L'erreur stratégique, c'est l'erreur de la guerre en Italie du Nord. Soyons clairs, les États n'ont pas vraiment les moyens, en fait, quand je dis les États, c'est le Royaume de France ou c'est l'Empire de Charles Quint, n'ont pas vraiment les moyens de s'affronter. Donc, s'il fallait résumer, il faut faire la guerre quand on n'a vraiment pas le choix. La guerre, ça coûte cher, ça rapporte pas grand-chose, on peut tout perdre, et ce qu'on gagne, généralement, on le gagne pas pour très longtemps. Donc vraiment, la guerre, c'est quelque chose qu'il faut faire si on a vraiment pas le choix. Et de ce point de vue-là, François Ier, il a le choix. C'est-à-dire que après 1515, après Marignan, il n'y a que des déconvenues de la présence française en Italie du Nord. Donc quand on a 10 ans de déconvenues, je pense que la question qu'on doit se poser, et c'est une question qui dépasse la question de François Ier, une question on va dire, dans la vie, dans les affaires, dans ce qu'on veut, quand on a 10 ans de déconvenues, il faut s'interroger sur la justesse de sa stratégie. Donc est-ce qu'il était juste de s'entêter à vouloir s'emparer du duché de Milan ? Ça, c'est la première question qu'on peut poser. La question qu'il faut se poser également, c'est quelle est, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la priorité de ce combat qu'on mène par rapport à la même échelle de 1 à 10 pour son adversaire. Je m'explique. Le duché de Milan est un duché stratégique pour Charles Quint, parce que si Charles Quint ne maîtrise pas le duché de Milan, il a une solution de continuité entre ses territoires méditerranéens, notamment l'Espagne, et ses territoires d'Europe du Nord, on va dire d'Allemagne et de la Belgique actuelle, hein, qui sont sous son autorité. C'est-à-dire que pour passer, il peut passer d'Espagne jusqu'en Italie, et puis ensuite il remonte. Si jamais il ne maîtrise pas Milan, ça veut dire qu'il est obligé de passer par l'océan Atlantique, c'est-à-dire longer 1500 km de côte française. Donc, sur une échelle de 1 à 10, la conservation de Milan par Charles Quint, elle est à 10. Maintenant, du point de vue français, le contrôle de Milan est à 6-7, on va dire. C'est-à-dire que c'est un coin enfoncé dans les possessions de Charles Quint, mais si François Ier ne maîtrise pas le duché de Milan, n'a pas le contrôle, c'est pas dramatique. Donc j'irais déjà, dans la vie, engager un combat dont la victoire n'est pas absolument nécessaire pour vous, alors qu'elle l'est pour votre adversaire. C'est déjà une idée qui est contestable. Ensuite, donc, je disais tout à l'heure, pendant 10 ans, ça se passe assez mal. Là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ma stratégie est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Et si elle est mauvaise, je dirais, ce qu'on dirait dans le monde des affaires, c'est qu'il faut couper ses positions. C'est-à-dire qu'on prend ses pertes, on prend les soldats qui sont morts, on prend l'argent qu'on a dépensé en vain, on perd les villes qu'on contrôlait, mais on ne perd pas plus. C'était très clairement, c'est facile de dire ça avec 500 ans de recul, hein, mais je veux dire, c'est une analyse que François Ier aurait pu faire. Alors, ensuite, on l'a vu sur Marignan, c'est pareil sur Pavie, c'est-à-dire qu'il prépare bien ses campagnes militaires. Il sait bien s'entourer de militaires qui ont, pour certains d'entre eux, 30 ou 40 ans d'expérience. Et donc, effectivement, Pavie va être extrêmement bien préparé et va être assez bien géré. Jusqu'au jour fatal. Assez bien géré en ce sens que la fragilité financière de François Ier n'a d'équivalent que la fragilité financière de Charles Quint. Et donc, en fait, François Ier a un avantage en termes de trésorerie par rapport à Charles Quint. Et donc, François Ier va mettre le siège devant la ville de Pavie, puis une armée de secours impériale va arriver et mettre le siège devant les Français. Mais ce qui n'est pas embêtant, parce que les Français sont bien équipés, bien armés, et ils ont des provisions pour longtemps, alors que les armées impériales sont dans une mauvaise situation. Mais c'est là que François Ier va faire peut-être la plus grosse erreur de son histoire, c'est que les impériaux vont le pousser à la faute. C'est-à-dire que si François Ier n'avait rien fait et qu'il était resté dans son camp, il se serait emparé de la ville de Pavie. Le problème, là, c'est que les impériaux vont le pousser à la faute, c'est-à-dire qu'ils vont l'attaquer. Ils vont envoyer un régiment d'arquebusiers qui vont attaquer au matin du 25 février 1525. Et face à des arquebusiers, quand on est derrière ces fortifications avec la meilleure artillerie de l'époque, il faut tirer sur les arquebusiers et ne rien faire. Et François Ier, d'une manière qu'on ne s'explique pas, va décider de charger à la tête de sa cavalerie lourde sur les arquebusiers. Donc, c'est une aberration, parce que les arquebusiers, ils tirent par 50, c'est un mur de feu, ils passent derrière et c'est les suivants qui tirent, qui passent derrière, c'est les suivants qui tirent, donc vous avez un mur de feu, et la chevalerie, c'est une charge lourde. Si on arrive à bousculer les troupes ennemies, ça peut être efficace, mais là, le terrain ne s'y prête pas, il n'a pas le temps d'arriver, et donc c'est un massacre de la chevalerie française. Donc cette erreur, elle est énorme. Elle est énorme, elle est inexplicable, c'est-à-dire que ça faisait des mois que François Ier tenait ses troupes et qui justement, il les interdisait d'aller dans des escarmouches qui pouvaient dégénérer. Et là, on ne sait pas pourquoi, et je dirais, quelle que soit la raison, c'est lui le fautif. Quand on est le chef, la responsabilité de la décision vous revient. Donc soit il a décidé de lui-même de charger, c'était stupide, soit... Et c'est pas mieux, il a cédé à la pression de ses conseillers, de ses officiers qui voulaient se couvrir de gloire. Et donc, autant Marignan n'est pas la victoire éclatante qu'on a dite, autant Pavie est le désastre militaire qu'on a dit.
D'accord. On va rester dans la politique extérieure. Alors, François Ier, c'est l'époque des grandes découvertes. Pour la France, il y a quand même Jacques Cartier et le Canada. Quelle est la position de François Ier, l'attitude de François Ier par rapport aux grandes découvertes?
Elle est, si on avait à faire un résumé, elle est entre l'admiration qu'ont certains pour sa politique, qui n'est pas tant couronnée de succès que ça, et l'espèce de jugement extrêmement dur qu'ont d'autres sur le fait que, précisément, il n'a pas conquis l'Empire aztèque et l'Empire inca. Alors, si j'avais à résumer, il faut d'abord resituer dans le temps. La date à retenir, c'est 1415. 100 ans avant Marignan, les Portugais franchissent le détroit de Gibraltar et s'emparent de la place forte de Ceuta, qui est au nord du Maroc. Et c'est le coup d'envoi des grandes explorations occidentales. Et donc, pendant plusieurs décennies, les Portugais vont longer la côte occidentale de l'Afrique, où ils vont implanter toute une série de comptoirs, jusqu'à la toute fin du XVe siècle, où ils franchissent le cap de Bonne-Espérance, qui ouvre la voie de l'océan Indien et donc du sous-continent indien. Donc, les grandes découvertes, c'est une histoire portugaise entre 1415 et 1490-92, en gros. Donc, les Espagnols arrivent ensuite sur le marché et ils vont dans la direction qui n'est pas occupée par les Portugais, c'est-à-dire plein ouest. Et c'est le financement, la participation au financement du voyage de Christophe Colomb qui se traduit par la découverte du Canada, de l'Amérique, pardon. Pendant ce temps-là, les rois de France optent pour des options résolument méditerranéennes. C'est-à-dire que les rois de France, entre 1415 et 1515, il n'y a rien en termes de financement, d'encouragement aux grandes explorations. Donc déjà, le règne de François Ier marque une rupture avec le règne de Louis XI, de Charles VIII, de Louis XII. C'est-à-dire que lui va s'intéresser au potentiel des grandes découvertes. Pas simplement avec Jacques Cartier, mais avec Verrazzano également, qui est un navigateur italien, dès le début de la décennie 1520, qui est celui qui a donné son nom au pont Verrazzano de New York. Donc, la première chose à dire, c'est qu'il rompt la tradition française de refus d'engagement dans les grandes découvertes. Alors, après, que reste-t-il de ces encouragements à Jacques Cartier? Alors, effectivement, il n'en reste pas grand-chose, à savoir, on a trois voyages de Jacques Cartier, hein, deux au milieu de la décennie 1530 et puis un au début de la décennie 1540. Là, on retrouve le pragmatisme de François Ier, c'est-à-dire qu'entre le deuxième et le troisième voyage, François Ier a une intense activité diplomatique avec Charles Quint et il espère que Charles Quint va lui céder le duché de Milan pour son fils, à lui, François Ier. Et donc, comme Charles Quint voit d'un mauvais œil des navigations transocéaniques jusqu'au Canada, donc au nord des possessions, notamment du Mexique actuel, et puis du Pérou, Bolivie actuelle, d'Amérique centrale en général, qui sont des possessions espagnoles, François Ier, je dirais, soigne celui avec qui il négocie en cherchant à ne pas le contrarier en finançant ses expéditions. Mais dès lors qu'il a compris que Charles Quint ne lui donnerait pas le duché de Milan, mais qu'il le donne d'ailleurs son propre fils, voilà, il relance la campagne canadienne. Et puis, au milieu de la décennie 1540, il décide d'arrêter de soutenir ses grandes explorations. Et j'ai envie de dire qu'en bonne politique, je ne vois pas trop comment on peut le lui refuser. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi, j'ai passé les 5 premières années de ma vie au Canada. J'aime beaucoup le Canada. Mais qu'est-ce que c'est que le Canada en 1540? C'est un espace relativement vierge, où il y a quelques tribus indiennes qui vivent, où il y a des castors, et où il fait froid 6 mois d'année. C'est pas le Mexique, c'est pas la Bolivie, c'est pas le Pérou, c'est pas l'Amérique centrale. Donc, lorsque François Ier comprend que l'or qui a été ramené par Cartier, c'est du cuivre, que les diamants qui ont été ramenés par Cartier, c'est du quartz, il n'a aucune raison, alors même que l'ennemi est aux portes du royaume, il n'a aucune raison de continuer à soutenir une présence française au Canada. Et si on veut... c'est la bonne décision à prendre. Il y a des urgences beaucoup plus importantes. Mais en revanche, si on veut être positif, on peut dire qu'il a assuré l'avenir et il a assuré, je dirais, dans l'imaginaire européen de l'époque, il y a cette idée que le Canada, c'est français. Alors, en fait, il n'y a plus grand monde après 1540, mais c'est français. Et donc, lorsque Samuel de Champlain, au début du XVIIe siècle, lorsque la France va se relancer dans la présence française au Canada, eh bien, il a au moins préparé cet avenir-là. Donc, sur les grandes découvertes, je dirais que le bilan est globalement très positif. C'est-à-dire qu'il a rompu avec un immobilisme français et il a ouvert des garanties pour l'avenir. Et moins connu, il a également soutenu les marchands français pour des négociations, enfin des commerces vers le Brésil. Ça, c'est quelque chose qui est moins connu, mais qui est également, en y mettant moins que pour le Canada, mais il a soutenu au moins politiquement, diplomatiquement, les entrepreneurs français qui étaient donc, qui cherchaient à établir le commerce avec le bois Brésil ou des peaux d'animaux sauvages du Brésil.
D'accord. Alors, il y a une autre orientation qui est le rapprochement avec Soliman le Magnifique, qui est une orientation incontestablement originale. Et tu mets en titre du chapitre 16 « Beaucoup de bruit pour rien ». Pourtant, on pourrait penser que c'est intéressant d'aller vers la Méditerranée orientale et pour le futur, ça peut être un redéploiement tout à fait fructueux. Alors,
pareil, je vais vous expliquer pourquoi je dis « beaucoup de bruit pour rien ». Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour. Alors, sur le fond, là encore, quelques éléments de contexte. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, l'Empire ottoman se constitue et les armées et la marine ottomane fait tomber les unes après les autres les têtes de pont de la chrétienté en Méditerranée orientale, et notamment des têtes de pont qui sont des possessions vénitiennes. Et donc, lorsque commence le règne de François Ier, les sultans et Soliman assez rapidement, à partir du début de la décennie 1520, est en passe de transformer la Méditerranée, au moins orientale, en un lac ottoman. Alors, ça, c'est pour le contexte général de la puissance ottomane. Maintenant, si vous revenez à François Ier, qui est le principal ennemi de François Ier, c'est Charles Quint. Charles Quint, qui est au sud du Royaume de France, qui est au sud-est du Royaume de France, à l'est et au nord. Qui est le principal ennemi de Charles Quint ? Bah, lui, pour le coup, il en a deux. Il a François Ier, mais il a également Soliman, qui menace l'Italie, qui menace les côtes espagnoles, soit que les galères turques viennent de Méditerranée orientale, soit se soient réfugiées dans les ports d'Afrique du Nord. Donc là, je vous renvoie au programme de mathématiques de CE2. Moins et moins, ça fait plus. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'association entre le roi de France et le sultan est une évidence stratégique qui a scandalisé. Parce que, évidemment, c'était l'alliance du roi très catholique avec un sultan musulman et d'un roi qui, évidemment, disait qu'il était prêt à partir faire la croisade. Donc, il y a effectivement, d'un point de vue idéologique, si vous voulez, un problème à cette alliance. Mais d'un point de vue diplomatico-stratégique, cette alliance est une évidence. Donc, tout le bruit qu'on a fait autour de ça, faut bien le dire, hein, c'est un bruit qui est fait en raison de cette alliance catholique-musulman. Pourquoi pour rien ? Parce que cette alliance, en fait, elle apporte pas grand-chose. Il y a un épisode qui crispe et qui cristallise les scandales, c'est l'hiver 1543-1544, lorsque la flotte ottomane hiverne à Toulon, dans un hiverrage à Toulon, dans la rade de Toulon. Mais il n'y a pas de grande alliance stratégique, en fait, entre la France et l'Empire ottoman, pour une raison très simple, c'est que la marine française, alors c'est une longue histoire que celle de la marine française, mais je dirais la marine française en général et encore plus en Méditerranée sous le règne de François Ier, elle est quasiment inexistante. Donc on n'associe pas quatre pauvres galères françaises à 70 galères ottomanes, il n'y a pas d'attaque en commun. Donc à l'arrivée, ça ne se traduit pas par grand-chose, ni par un grand déséquilibre, si vous voulez, méditerranéen, que cet appui français, tout simplement parce que les Français, ils n'ont pas grand-chose à donner aux Ottomans. Voilà. D'où beaucoup de bruit pour rien.
D'accord. Alors, on va revenir à la méthode de gouvernement. On a parlé de Louise de Savoie. On va s'intéresser un peu à l'entourage de François Ier et en particulier à ses favoris. Les souverains gouvernent à l'époque avec des favoris, les Espagnols disent des validos. C'est un petit peu le même principe. On en connaît plusieurs très célèbres dans l'histoire de France. Qu'en est-il des rapports de François Ier et de ses favoris ?
Là encore, c'est quelque chose de très intéressant et sur lequel on a, à mon avis, commis pas mal de contresens. Et ce que je veux dire d'ailleurs pour François Ier serait valable pour Henri VIII, pour Charles Quint, pour ses contemporains, pour Soliman le Magnifique, même, avec Ibrahim Pacha, par exemple, ou pour ses successeurs, comme Louis XIV. Dans une situation normale, une situation où le pouvoir royal est fort, de croire que le favori est celui qui gouverne à la place du roi, c'est un contresens. C'est un contresens qui, d'ailleurs, est bien validé par le fait que quasiment tous les favoris connaissent une disgrâce. C'est-à-dire qu'il ne conserve pas le pouvoir de diriger le Conseil sur l'ensemble de leur vie. Donc le principal, le plus puissant des favoris de François Ier, c'est Anne de Montmorency. Anne étant à l'époque un prénom masculin ou féminin. Donc Anne de Montmorency dirige le Conseil du roi entre 1530 et 1541. C'est un d'ailleurs de ceux qui militent en faveur d'une alliance avec Charles Quint et qui pensent pouvoir obtenir de Charles Quint que le duché de Milan soit confié au fils de François Ier. Et lorsqu'en 1541 il apparaît que cette politique est un échec, qu'est-ce que fait François Ier ? Il congédie Anne de Montmorency de la cour de France. Donc au mois de juin 1541, Anne de Montmorency quitte la cour de France et n'y remettra pas les pieds jusqu'à la mort de François Ier. Il ne reviendra qu'à lorsque Henri devient Henri II, devient roi de France et succède à son père François Ier. Et tous les principaux conseillers de François Ier sont dans cette situation-là. Et il me semble que, je la cite je crois dans le livre, qu'il y a une tirade de Cinna qui résume bien ce que c'est qu'un favori. C'est au début de la première scène de l'acte 5, sauf erreur, de Cinna. L'empereur romain convoque Cinna et en gros lui explique, Cinna est en train de plus ou moins fomenter un coup d'État contre l'empereur. Et l'empereur, vous savez, et la clémence d'Auguste, hein, c'est-à-dire qu'il va lui pardonner finalement, mais il lui dit à Cinna, attention, tu comprends pas bien quelle est la source de ton pouvoir. Il dit ceci, il lui dit, ma faveur fait ta gloire et ton pouvoir en vient. Elle seule t'élève et seule te soutient. C'est elle qu'on adore et non pas ta personne. Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne. Et pour te faire choir, je n'aurais aujourd'hui qu'à retirer la main qui seule est ton appui. Et cette phrase, enfin cette tirade, me paraît peut-être une des tirades les plus denses pour expliquer ce qu'est la légitimité en politique. Et donc, sur les favoris, je pense que c'est un élément qui est absolument essentiel. Pour Thomas Wolsey, par exemple, le principal conseiller d'Henri VIII, qui lui aussi est disgracié. Pour Francisco de los Cobos, le secrétaire de Charles Quint, qui flirte avec la disgrâce à un moment. Et pour tous les autres favoris au cours du règne de François Ier ou au cours du règne de ses successeurs. Le favori ne tient son pouvoir que de la faveur du prince. Et donc, si le prince lui enlève cette faveur, il n'est plus rien. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise le pouvoir de François Ier, qui est un souverain qui, encore une fois, écoute les experts, écoute ses favoris, mais décide et sans pitié lorsqu'il a l'impression que le favori se trompe sur la nature de son pouvoir. Et je dirais, là encore, qu'il ne faut pas se tromper sur l'intérêt d'avoir un favori, un favori ou un conseiller principal, si vous voulez, le terme de favori peut être ambigu. Et je dirais, vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui avait une connaissance presque charnelle de l'histoire de France, qui est le général de Gaulle. Lorsqu'il fait écrire la constitution de la Ve République, il prévoit un système politique dans lequel vous avez un président de la République et un Premier ministre. Et quelle est la fonction du Premier ministre dans la Ve République ? Alors, ça a changé, je dirais, depuis le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Mais jusqu'à Nicolas Sarkozy, sans discussion possible, le Premier ministre, c'est celui qui prend les coups, qu'on essore, et lorsqu'il n'en peut plus, on en change, on en met un frais. Et on protège, en fait, le président, celui qui a le pouvoir suprême, on le protège avec cet écran, ce filtre, en fait, entre, dirais, le peuple ou le royaume et puis le pouvoir absolu, dans le cas de la royauté. Et donc, le favori doit être compris comme ça, y compris pour les validos du XVIIe siècle en Espagne. Le favori, c'est celui qui prend les coups et qui protège, en fait, le roi, du mécontentement de l'aristocratie, du mécontentement du peuple qui trouve que les impôts sont trop importants, etc. Et donc, le favori n'a quasiment, surtout s'il est compétent, hein, n'a quasiment que des intérêts. Et c'est comme ça que François Ier l'utilise, en tout cas.
Alors, après les favoris, passons aux favorites et gardons la notion d'ambiguïté. Donc, les maîtresses royales, il y en a une qu'on va retenir parce qu'elle semble avoir quand même une réputation un petit peu... On est dans le domaine de la légende noire, c'est la Duchesse d'Étampes. Quelques mots sur la Duchesse d'Étampes.
C'est un personnage très intéressant. La Duchesse d'Étampes, elle est complètement oubliée. Hein. C'est pas dans les favorites les plus célèbres. C'est pas Agnès Sorel, c'est pas la Montespan, etc. Mais c'est un personnage très intéressant, injustement méprisé, notamment par les contemporains et les historiens qui se moquent d'elle en expliquant qu'elle est corrompue. Alors, je vous fais pas toute la liste du propos misogyne de base. Hein. Une femme, c'est corrompu, ça se corrompt facilement avec des bijoux, ça change d'avis tout le temps, c'est pas fiable, etc., etc. Et les exemples qui sont donnés par les contemporains sont pas très convaincants. Je vais vous donner un seul. Le nonce apostolique, donc l'ambassadeur du pape, se moque de la Duchesse d'Étampes qui a tenu les propos suivants. On est quelques mois avant la mort de Paul III, le pape, et c'est le mariage de Catherine de Médicis avec le futur Henri II. Et ce que dit la Duchesse d'Étampes, c'est qu'elle dit « c'est toujours marrant ces mariages », encore une fois, ce n'est pas ces mots exacts, hein, vous avez compris, mais ces mariages qu'on fait avec des jeunes filles qui sont issues de familles pontificales, alors que le pape va mourir bientôt et que la première préoccupation de son successeur, ce sera de, en gros, dézinguer tous les membres de la famille de son... Dézinguer, pas forcément les tuer, hein, mais affaiblir tous les éléments de la famille de son prédécesseur. Et ça fait beaucoup rire le nonce apostolique, mais c'est une analyse de bon sens de la part de la Duchesse d'Étampes, qui a parfaitement compris, effectivement, que là, en l'occurrence, c'était un mariage qui, diplomatiquement, n'avait strictement aucun intérêt. La Duchesse d'Étampes, si je résume ce qu'elle essaye de faire et ce qu'elle parvient à faire, elle est très intéressante comme révélateur de la nature de l'État français à la Renaissance, à ce moment-là. C'est-à-dire que la Duchesse d'Étampes a une ambition politique. Elle veut peser sur les orientations du règne de François Ier. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, elle a une ligne politique. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un qui change tout le temps d'avis. Et cette ligne politique est notamment, se construit notamment sur des convictions religieuses. Elle est crypto-protestante. Et donc, elle veut construire un axe de rapprochement entre le royaume de France et les princes protestants allemands. C'est-à-dire qu'elle considère que pour contrer Charles Quint, il faut s'allier au sein de l'Empire de Charles Quint sur les princes protestants allemands. Ce qui est une analyse qui peut parfaitement se défendre et elle ne change pas d'avis là-dessus. Mais ce qui est tout aussi intéressant, c'est de voir qu'elle n'arrive strictement à rien. Et pourquoi n'arrive-t-elle strictement à rien ? Tout simplement parce qu'on est dans un État qui est déjà un État bureaucratique. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser la chaîne de décision bureaucratique. Et si on ne la maîtrise pas, on n'arrive à rien. Elle a beau être peut-être la personne la plus proche du roi de France, elle ne peut pas concrétiser ses objectifs. Et on a un exemple très clair. Elle écrit à des princes protestants allemands, alors faisant toute une série de propositions pour se rapprocher du roi de France. Et la réponse de ces princes protestants allemands, qui est conservée aux archives nationales, c'est « Écoutez, merci pour ces propositions. Évidemment, elles nous conviennent parfaitement. Est-ce que vous pourriez demander au cardinal de Tournon, qui est l'une des têtes du conseil du roi à cette époque-là, en charge des affaires allemandes, de nous faire ces propositions officiellement. Voilà. Mais vous, ça ne nous intéresse pas de négocier avec vous. Nous, on veut négocier avec ceux qui ont le pouvoir. Et donc, je dirais que l'échec de la Duchesse d'Étampes révèle pas du tout son incompétence ni sa versatilité, pas du tout. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, d'extrêmement malin, d'extrêmement endurant, qui ne change pas de ligne, mais révèle la nature d'un État qui est déjà un État administrativo-bureaucratique où il faut maîtriser la chaîne de décision. Ça, c'est dans la vie, hein. Ce n'est pas parce que vous demandez au grand patron de faire quelque chose, si celui qui est en dessous ne fait pas ce que vous voulez, bah, ça ne servira à rien, même si le grand patron était d'accord.
On va peut-être, on n'imaginerait pas un entretien sur François Ier sans parler d'art. On va peut-être laisser un petit peu de côté les châteaux, Chambord, tout ça, parce que c'est des aspects très connus. Par contre, on va peut-être se focaliser sur l'aspect François Ier, grand collectionneur. Est-ce que tu peux un petit peu développer cette idée qui est longuement exposée dans le livre ?
Oui, il y a plusieurs choses. Deux, trois mots peut-être sur ce qui est bien connu depuis longtemps, qui est sa passion pour l'art italien. Et notamment la peinture italienne. C'est lui qui parvient à faire venir Léonard de Vinci, juste après la victoire de Marignan. Il essaye en vain de faire venir Raphaël, qui sans doute ne sera jamais venu, mais qui de toute manière meurt trop tôt. Et il a l'espoir à un moment de faire venir Michel-Ange, notamment après 1527, après le sac de Rome, quand Michel-Ange est réfugié à Venise. Donc, comme les premiers couteaux ne viennent pas, François Ier harponne un cran plus bas et il fait venir Rosso Fiorentino, qui est un peintre florentin extrêmement original. Ce n'est pas le même calibre que les Léonard de Vinci, Titien, Michel-Ange, etc., mais c'est un artiste à nul autre pareil. Voilà. C'est-à-dire qu'il a une tonalité propre, il a une identité propre et il va jouer un rôle très important pendant une dizaine d'années. C'est lui qui va penser, en fait, notamment la galerie de Fontainebleau. Mais je pense qu'il faut peut-être dire quelques mots sur quelque chose qui est beaucoup mieux connu depuis un peu moins d'un an, qui est l'intérêt de François Ier pour les arts flamands, grâce à la grande exposition du Louvre, qui s'est tenue au Louvre en fin d'année dernière et début de 2018. C'est quelque chose qu'on connaissait, c'est pas une découverte. On savait que François Ier avait une collection de peintures flamandes, qu'il avait une orfèvrerie flamande tout à fait exceptionnelle, qu'il avait des tapisseries flamandes, tout ça, on le savait, mais concrètement, on n'en savait pas grand-chose. Et là, cette grande exposition nous a permis de connaître bien mieux non seulement concrètement ce qui constituait cette collection, mais également ce qui relevait du goût personnel de François Ier. Et c'est le cas dans les tapisseries, en particulier. Les tapisseries qui n'ont pas qu'une fonction décorative. Hein. La tapisserie, c'est également un bon isolant dans les châteaux. Quand vous avez surtout des pièces surdimensionnées comme à Chambord, vous pouvez réduire votre pièce en tendant des tapisseries. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le goût de François Ier est un goût spécifique qui est très différent de celui d'Henri VIII ou de celui de Charles Quint. C'est un goût très concret, avec des tapisseries qui présentent souvent des feuillages extrêmement élaborés, et donc des tapisseries flamandes, hein, pas des tapisseries italiennes. Il y a des tapisseries qui sont faites à partir de cartons italiens, mais il y a vraiment des tapisseries typiquement flamandes. Et puis également des tapisseries qui représentent la vie d'un seigneur rural. Et là, on retrouve la simplicité que j'évoquais tout à l'heure, donc avec les saisons, voire les mois, des séries de 12 tapisseries, et avec François Ier dans son intérieur, avec ses proches, avec ses favoris, assistant aux vendanges, assistant à la tonte des moutons, etc. Et donc avec un goût pour, je dirais, le concret, la simplicité de la vie, les plaisirs de la vie, une forme d'originalité aussi, c'est-à-dire que François Ier est ouvert à des types d'art très différents. Par exemple, il a un cycle de tapisseries, malheureusement disparu aujourd'hui, mais qui reprenait des tableaux de Jérôme Bosch. Et ce qui est assez amusant, c'est que celui qui a fait l'inventaire, sous François Ier, il est un peu perdu. Il me parle d'un en disant, je crois, il décrit la tapisserie en disant, je ne sais plus quel est le tableau qu'il décrit. Il arrive à identifier un sujet. Vous voyez, Jérôme Bosch, c'est pas toujours facile de savoir ça. Un sujet, il dit, et autre tapisserie. Et voilà, il abandonne l'idée de la description de chacune des pièces, alors que pour les tapisseries italiennes, Sanson et Dalila, enfin voilà, il y a tout qui est bien décrit. Mais l'originalité du goût de François Ier fait que même celui qui fait l'inventaire est un peu perdu et ne sait pas trop comment décrire les pièces.
Merci. Alors, le moment est venu de faire un petit peu une synthèse et j'ouvre le livre à la page 391 et je lis comme titre de chapitre « François Ier a-t-il tué Liberty Valence ?» Western célébrissime de John Ford que nous avons tous vu et je ne réside pas au plaisir de vous lire les premières lignes. Il y a donc d'abord la bataille de Marignan, que François Ier n'a pas vraiment gagnée. Cet adoubement qui n'a jamais eu lieu. Léonard de Vinci, qui n'est pas mort dans ses bras. Titien, qu'il n'a jamais rencontré. Chambord, où il n'a presque jamais dormi. Ce camp du Drap d'Or, où il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a ensuite le Collège de France, qu'il n'a pas créé. La Bibliothèque nationale, dont il n'est pas le père. La langue française, pour laquelle il n'a pas fait tant que ça. Villers-Cotterêts, n'étant pas une déclaration de guerre au patois. Le Canada, qu'il a abandonné malgré Jacques Cartier. Et puis, tu continues. François Ier est un tissu de légendes qu'on annonce sans les discuter, sans chercher à savoir d'où elles viennent et qui les a créées. Vous continuerez la lecture, elle est absolument passionnante. Il y a un vrai style dans ce livre, je pense que vous l'avez senti. Mais alors si on fait le bilan, il a tout raté, François Ier.
Non, justement, il n'a pas tout raté. Encore une fois, il se passe quelque chose pendant son règne. C'est un souverain qui a un pied dans chaque monde, c'est-à-dire qu'il a un pied au Moyen-Âge, un pied dans l'époque moderne. Il est le dernier roi chevalier et le premier roi moderne, si vous voulez. Il est celui qui va un peu réveiller une France un peu endormie et qui va créer l'élan qui va ensuite être concrétisé soit par d'autres au cours de son règne, sur le Collège de France, par exemple, un collège royal, soit par d'autres dans les décennies qui suivent. Et par exemple, pour rebondir sur l'art dont on parlait il y a un instant, la France, sous François Ier, vit sous perfusion de deux modèles, qui sont le modèle flamand et le modèle italien. Ce que va faire François Ier à Fontainebleau, c'est créer un modèle français qui est une synthèse, en fait, de l'influence flamande et de l'influence italienne. Et on peut considérer que le triomphe de l'académisme français au XVIIe siècle, donc le moment où la France atteint à tel niveau on dirait dans l'art qu'elle peut s'imposer comme un modèle, c'est quelque chose qui n'a été possible que par l'enthousiasme artistique de François Ier. Pour en revenir à la question des légendes, ma démarche, l'ouvrage au départ a été écrit, j'en disais deux mots il y a quelques instants, je crois, pour réagir aux deux types de propos univoques qui étaient tenus sur le règne. C'est-à-dire un propos qui nous laisserait l'impression que François Ier est le plus grand roi que la France ait jamais connu et qu'il a tout ce qu'il a touché, il en aurait fait de l'or. Et puis à l'inverse, l'idée que c'est le plus grand crétin que la France n'ait jamais eu sur son trône, un espèce de souverain dilettante qui ne prenait rien au sérieux. La vérité, je dirais, elle n'est même pas entre les deux, elle est ailleurs. La vérité, elle est, encore une fois, dans l'élan qu'il a donné à son royaume. Et si je parle de... Alors là, pour le coup, on a un titre provocateur, on est d'accord ? François Ier a-t-il tué Liberty Valence ? C'est parce qu'il y a une phrase dans L'homme qui tue à Liberty Valence qui est, en trois mots, le sujet du film, c'est un personnage qui est candidat à la vice-présidence des États-Unis, on est vers 1900 sans doute, et qui a fait toute sa carrière sur le fait qu'il a tué Liberty Valence, 40 ans plus tôt, Liberty Valence étant un pilleur de diligence avec lequel il s'était affronté. Et il a construit sa carrière là-dessus. Et ce personnage, en fait, était un avocat venu de l'Est des États-Unis et qui voulait faire triompher le droit dans les lieux de la frontière, au sens américain du terme, avec un F majuscule, l'endroit où le droit n'existait pas et où c'était la loi du plus fort qui régnait. Et c'est là que cet avocat a affronté ce tueur à gages et pilleur de diligence qui est Liberty Valence. Et ce que nous raconte dans un grand flashback cet avocat qui a réussi et qui est devenu candidat à la vice-présidence des États-Unis, ce qu'il raconte, c'est qu'il se libère la conscience d'un mensonge sur lequel il a construit sa vie. Ce n'est pas lui qui a tué Liberty Valence, c'est un ami à lui, joué par John Wayne, évidemment. Qui lui a sauvé la vie, en fait, parce que dans le duel qu'il opposait à Liberty Valence, il n'avait aucune chance de gagner, qui lui a sauvé la vie et qui lui a permis de faire la carrière qu'il a fait et également de lui piquer, d'ailleurs, la femme que John Wayne aimait. Et donc, James Stewart, à la fin du film, est soulagé d'avoir vidé sa conscience et il dit d'avoir dit la vérité et il dit au journaliste qui a pris les notes pendant les deux heures du film et de l'histoire, il lui dit voilà, qu'est-ce que vous allez faire de ça ? En gros, vous avez quand même le scoop de votre vie. Et le gars lui répond c'est l'Ouest ici. Et dans l'Ouest, quand la légende devient réalité, on imprime la légende. Et c'est tout le sujet du film. qui fait exactement autre chose que ce que dit la phrase. C'est-à-dire que le film démontre que c'est en fait pas James Stewart qui a tué Liberty Valance. Et si vous relisez la phrase, il dit pas, en gros, quand la légende s'est imposée, bah, on s'en moque de la vérité et on dit la légende. Si vous reprenez les mots, c'est dans l'Ouest, lorsque la légende devient réalité, in the West, when the legend becomes fact, donc devient des faits, on imprime la légende, print the legend. L'idée, telle que je la comprends, et telle que, on va revenir à François Ier dans un instant, je vous rassure, telle que je la comprends, c'est que, en fait, en quoi la légende est devenue réalité, c'est que, certes, c'est John Wayne qui a appuyé sur la gâchette, mais s'il y a eu cet affrontement, c'est parce qu'on avait celui qui incarne l'avancée de la, je dirais, de la civilisation, qui a été à l'affrontement avec ce pilleur de diligence. Et dans la vie, on peut être dépassé, on peut représenter plus que soi-même. Et là, ce que représente James Stewart, c'est, à travers sa petite personne, c'est le sens de l'histoire. C'est l'avancée du règne du droit sur le règne de la loi du plus fort. Et c'est le principe des mythes. Je vous renvoie aux mythes grecs, aux mythes de toutes les civilisations. Les mythes, ce sont des récits faux, qui ne se sont jamais passés, normalement, mais qui disent quelque chose de vrai. C'est ça l'intérêt du mythe. C'est donc un appel à, je dirais, à faire la différence, enfin à introduire un troisième élément entre le vrai et le faux. Le vrai, on sait ce que c'est, le faux, on sait ce que c'est, mais entre les deux, il y a le fictif. Selon la tripartition de Carlo Ginzburg, il y a le fictif et la fiction. La fiction peut nous raconter des choses qui ne se sont pas produites, mais qui nous disent quelque chose de vrai. Et donc là, si je reprends les légendes, l'adoubement, puisque j'en ai pas parlé, l'adoubement de Marignan, au soir de Marignan par Bayard, il est quasiment certain que cet adoubement n'a jamais eu lieu, pour tout un tas de raisons qui est trop long d'expliquer ici. C'est quasiment certain qu'il n'a jamais eu lieu. Pour autant, cette légende fausse nous dit quelque chose de vrai. S'il y a bien un roi dans l'histoire de France qui incarne la chevalerie, c'est François Ier. Léonard de Vinci n'est pas mort dans les bras de François Ier. Mais s'il y a bien un roi qui a lancé la collection de peinture italienne en France, c'est François Ier. Et quelles que soient en fait les légendes que vous pouvez analyser, vous vous apercevrez, et il y en a beaucoup dans le règne de François Ier, que ces légendes fausses nous disent quelque chose de fondamentalement vrai. Et c'est un peu l'objectif de mon livre, qui est ni d'être un portrait à charge, ni d'être un portrait hagiographique de François Ier, qui n'est pas de démonter les légendes. Je dirais que c'est assez facile, c'est mon métier, de dire « Ah bah, ils sont bien malins, ils continuent à répéter des choses qui sont fausses, mais moi, je peux vous prouver que c'est faux. » Ça, c'est mon métier, il faut que je le fasse. Mais pour moi, mon métier, c'est également d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a démonté que la légende était fausse, il faut s'interroger sur les raisons du succès de cette légende. Et c'est là qu'on découvre que ces légendes fausses nous disent quelque chose de vrai. Encore une fois, c'est un peu subtil. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire s'il a été adoubé. Non, il n'a pas été adoubé. Non, Léonard de Vinci n'est pas mort dans ses bras. Mais ces légendes fausses nous disent quelque chose de fondamentalement vrai, et sur le roi, et sur la période du règne. Donc la question, a-t-il tué Liberty Valance, François Ier, oui et non, si vous voulez. Non, mais un peu oui quand même.
Je crois que la comparaison et tout le reste de l'exposé méritent bien que nous applaudissions Cédric.